jetterai les pots.
Ce qu'il faut
je jetterai
faire
les l'étage.
Je gasserai les
pots. Patriarca, patriarca. Patriarca, patriarca. Patriarca, patrie. Patriarca, patrie.
La parole est mienne, pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste.
Cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and holes.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir, vous êtes sur Dégenré. Souvenez-vous, la semaine dernière, le 6 février, c'était la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors ce soir sur Dégenré, on va vous faire une émission sur ce thème-là et sur les luttes contre ces violences faites aux femmes. Et on va tout de suite commencer par écouter un extrait du film Mola Adé, ainsi qu'un poème et qui a été écrit par une femme djiboutienne qui a été mutilée. Et vous allez entendre dès le premier extrait là, du film Mola Adé, qui est un film contre l'excision qui a été fait par un auteur sénégalais. Vous allez entendre une femme qui parle en bambara et elle dit « Je suis une impure et je resterai une impure ».
La corrompe, ou à la corrompe, ni mon solo fola, ni à nous fola, bara, ni mon lula, la lima, ni mon mana. De mon son, ni ma solo, ayabi la carana.
Petite fille au grand soleil, tu verras ton jour s'éteindre et ton désir se restreindre, puis tu banniras ton réveil. Au petit matin, le bonheur dans ton corps s'amuse, élue des règles et des us, il t'affiche leur ardeur. Les hommes créent le flot, tandis que les femmes te tiennent. mais tous contiennent la joie secrète des fous. Bientôt des doigts de sorcière posséderont ton corps si docile. Le moindre battement de cils émonte les enchères à même le sol, le pouls haletant. Elle t'initie à l'âme insensible, te prive de ton nez sensible. Elle te frappe à bout portant. Qu'en ont-ils dit? Qu'en ont-elles fait? Qu'en ont-ils raconté? Qu'en ont-elles pris? Petite fille au grand soleil, écarte tes jambes fines, qu'elle place la lame d'épine. Petite fille dans l'écueil, maintenant que le sang gît, c'est ta douleur, ma douleur, c'est ta pâleur, ma couleur. Maintenant que le cœur ne vit, il brime ta joie. Elles ont arraché ton sexe, ils ont marqué ton axe. Ils, encore ils, dites ta foi. Petite fille au grand soleil, tu vois ta nuit s'étendre et ta ronde lune se fendre, puis tu crains ton réveil. Ce poème s'appelle Petite Julfe. C'est un poème qui a été écrit par une femme djiboutienne qui a subi des mutilations sexuelles.
Bonsoir, vous êtes bien sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope. Ce soir, on va faire une émission sur les mutilations sexuelles féminines, parce que le 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, dont fait partie l'excision. Et l'intitulé de cette journée, c'est « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». Alors pour ça, ce soir on est deux à la radio, c'est un entretien à deux personnes. Donc il y a moi, Nicolène, et il y a Sabrine Bintloula Arrasas qui est une amie féministe. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Sabrine ?
Oui, bonsoir, donc Sabrine, je suis activiste, féministe, je viens de Djibouti et j'ai travaillé sur la question des mutilations sexuelles féminines dans des associations en France, notamment la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines à Paris, et le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur la question des mutilations sexuelles féminines à Amnesty International, puisque je travaille à Amnesty International.
D'accord. Alors ce soir, on va parler déjà de ce que sont les mutilations sexuelles féminines. Faire un peu un état des lieux mondial d'où est-ce qu'on en est. Et puis on va vous parler surtout des luttes à travers le monde contre les mutilations sexuelles féminines, quelles sont les avancées et quelles sont aussi les contraintes et les difficultés, les obstacles auxquels se confrontent les femmes, les féministes qui luttent contre les mutilations sexuelles féminines. Tu voulais dédier l'émission, Sabrine ?
Oui, c'est sûr que quand on parle des mutilations sexuelles féminines, on pense à toutes ces filles et ces femmes qui ont été victimes de ces mutilations, mais on pense aussi aux femmes qui ont lutté depuis, depuis longtemps. Et du coup, donc, bah, je dédie cette émission à ces femmes qui se trouvent partout pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines.
Ok, on va écouter un morceau de musique et puis ensuite on va faire un peu un état des lieux de ce que c'est.
Écouter Oumou Sangaré, qui est une chanteuse malienne. La chanson qu'on a écoutée, c'est Sahamani, extrait de l'album Blues du désert. Mais Oumou Sangaré a fait plusieurs albums. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une femme qui est très militante au Mali, qui critique les politiques gouvernementales et qui est aussi très critique sur la position des femmes sur la société.
Tout d'abord, on va faire un état des lieux des mutilations sexuelles féminines, savoir déjà où est-ce que ça se pratique, quelles sont les estimations, et puis aussi qu'est-ce que c'est concrètement que ces pratiques, quoi.
Alors, de nos jours, donc, on estime à 3 millions chaque année le nombre de filles susceptibles d'être excisées. 3 millions, c'est énorme, d'accord ? En France, une dernière étude donc de cette année estime à plus de 50 000 les filles donc qui ont été excisées sur le sol, excisées en tout cas et qui sont en France, d'accord.
Et quand tu dis 3 millions, c'est 3 millions chaque année de nouvelles femmes excisées.
Voilà, c'est-à-dire que chaque année, on estime que 3 millions de filles, de femmes, seraient victimes de mutilations sexuelles féminines. C'est une estimation qu'on tient de l'Organisation mondiale de la santé.
D'accord. Et où est-ce que ça se pratique ?
Les mutilations sexuelles féminines se pratiquent en Afrique, mais pas dans tous les pays africains. Se pratiquent dans quelques contrées en Inde, notamment le sud de l'Inde, la Malaisie, on a découvert aussi. Se pratique au Yémen, donc là on est vraiment loin de l'Afrique, se pratique au Yémen, et en Arabie Saoudite. Elle se pratique aussi dans les pays occidentaux, dû aux migrations, et en Amérique du Nord, notamment les États-Unis, le Québec, le Canada, sans oublier quelques contrées, quelques pays en Amérique latine, et je pense notamment aux contrées amazoniennes et à la Colombie.
Ok, et en Afrique, tu me disais que c'était dans les pays subsahariens, c'est-à-dire plutôt au sud du Sahara ?
Exactement, ça se pratique au sud du Sahara, par exemple le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ne pratiquent pas du tout les mutilations sexuelles féminines, à contrario, le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Djibouti, Kenya, l'Éthiopie pratiquent les mutilations sexuelles féminines, Mauritanie, Tchad, etc.
D'accord. Et dans les pays, il y a différentes proportions. Il y a des pays qui pratiquent plus ou moins les mutilations sexuelles féminines.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on prend par exemple le Sénégal, il y a l'ethnie des Wolofs. Ne pratiquent pas les mutilations sexuelles féminines. Par contre, d'autres ethnies plus minoritaires dans ce même pays pratiquent, telles que les Soninké et les Bambara, pratiquent les mutilations sexuelles féminines. C'est la même chose aussi en Côte d'Ivoire. C'est la même chose aussi au Mali.
D'accord. Et on voit par contre des pays comme l'Égypte où il y a une forte... c'est 95%.
Voilà, c'est à peu près entre 95 et 96% d'estimation de filles donc excisées en Égypte.
D'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas spécialement dans les pays musulmans que ça se pratique, contrairement aux clichés que l'excision ou les mutilations sexuelles féminines seraient liées à la religion musulmane.
Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est un cliché qui revient assez souvent. Donc, les mutilations sexuelles féminines, quelle que soit leur forme, ne sont pas prescrites ou inscrites dans le Coran, ni même dans les préceptes du prophète. Hein. L'islam, en tout cas, ne dit pas d'exciser ou d'infibuler.
Oui, c'est pour ça que des pays, par exemple, comme le Maroc ou l'Algérie, ne pratiquent pas du tout. Ou par exemple, les Wolofs au Sénégal, qui sont majoritairement musulmans, ne pratiquent pas du tout l'excision ou la clitoridectomie ou la fibulation.
Bien sûr, t'as la Libye, t'as le Maroc, comme tu l'as dit, la Tunisie, l'Algérie qui ne pratiquent pas les mutilations sexuelles féminines. Mais tu vas dans d'autres pays tels que par exemple l'Éthiopie, le Kenya, qui sont donc majoritairement chrétiens, eh bien majoritairement pratiquent les mutilations sexuelles féminines. Entre 70 à 80% en Éthiopie d'estimation d'excision, le Kenya entre 50-60 et j'en passe, bien sûr.
D'accord. Et justement, tu disais qu'il y avait trois types de mutilations sexuelles féminines. Est-ce que tu peux les décrire ?
Alors, brièvement, donc il s'agit du premier type qui est donc la clitoridectomie, qui est une ablation partielle ou totale du capuchon clitoridien ou du clitoris. Le deuxième type étant le type le plus pratiqué dans le monde et qui est donc l'excision, qui consiste en une ablation du clitoris partielle ou totale, en plus d'une ablation partielle ou totale des petites lèvres. Le troisième type est ce qu'on appelle l'infibulation, qui consiste à l'ablation des grandes lèvres ou à la suture des grandes lèvres en plus de l'ablation du clitoris, de l'ablation des petites lèvres. Si bien que à l'issue de cette infibulation-là, on a une vulve qui est lisse où on n'a gardé qu'un seul trou pour permettre l'écoulement des règles et l'écoulement de l'urine. Mais autant vous dire que ce trou est un tout petit trou où même le petit doigt de la main ne peut rentrer. Autrement dit, la fille est impénétrable.
D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que donc il y a trois formes qui consistent. Enfin, le clitoris, c'est un organe donc qui mesure entre 4 et 8 cm et qui est particulièrement innervé. La vulve, c'est un endroit très très où il y a beaucoup de veines qui saigne énormément. Donc que ça soit une forme, on va dire, dite légère, comme la clitoridectomie, ou des formes comme l'infibulation, on touche donc à un organe extrêmement sensible, et aussi qui perd énormément de sang si on le touche. Donc est-ce que tu peux me dire déjà un peu comment ça se fait? Est-ce que ça se fait avec des anesthésies? Et quels sont les risques par rapport à ça, quoi?
Alors, déjà, il n'y a pas pour moi une forme légère de mutilation sexuelle féminine. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment attention à ça. Toutes les formes, aussi minimales soient-elles, sont graves. Effectivement, le clitoris est une zone donc complètement innervée. Et les mutilations sexuelles féminines, en règle générale, se pratiquent sans aucune anesthésie médicale. Et de fait, les conséquences sont très graves. Des conséquences immédiates telles que la mort, soit par septicémie, donc empoisonnement du sang, soit par hémorragie, parce que le corps est complètement vidé de son sang. Ou alors des conséquences sur la sensibilité du clitoris. Ça réduit en fait le désir, ça réduit le plaisir, et ça peut même entraîner une fragilité. Mais ça a aussi des conséquences sur l'accouchement, qui va causer soit un accouchement difficile, soit la mort tout simplement du nouveau-né ou de la mère, parce qu'il y a un rétrécissement de la vulve, compte tenu que la vulve a été excisée ou infibulée. Il y a aussi des conséquences psychologiques telles que le traumatisme et le choc.
Rien que la douleur sur le cou, hein, c'est
mais tout à fait à la suite de la douleur, mais c'est aussi l'angoisse, parce que la fille n'a pas été particulièrement préparée à cette violence très très grave. Et donc ça, eh bien le corps, l'esprit, le garde en mémoire. Mais il y a aussi le risque d'attraper des maladies telles que le sida, parce qu'il y a un risque quand même de contamination de cette maladie.
Et peut-être avant de parler des raisons sociales invoquées pour légitimer ces pratiques, peut-être on va dire pourquoi on parle, nous, de mutilation sexuelle féminine et pas de mutilation génitale féminine.
Oui, je pense que c'est important de rappeler pour nous, en tant qu'activistes féministes, que de dire qu'il s'agit de mutilation sexuelle féminine. Pourquoi ? Parce que quand on parle de mutilation génitale féminine, on ne donne que l'aspect génital, l'aspect physique de la vulve, qui est certes déjà très affectée.
Oui, c'est déjà très grave.
Bien sûr, qui est déjà très affectée par les mutilations sexuelles féminines. Mais il ne faut pas oublier que cette mutilation génitale féminine s'inscrit dans une logique de domination, dans une logique de soumission des femmes par les hommes, qui souhaitent aboutir à un contrôle de la sexualité, aussi bien sur le plan de la virginité que sur le plan de la fidélité. Et que par conséquent, on se doit de rappeler les deux aspects, l'aspect physique, l'intégrité physique qui est atteinte, et puis l'intégrité des droits, d'un ensemble des droits d'un ensemble de la liberté des droits des femmes qui sont donc touchées.
D'accord. Mm-hmm. Aussi, par rapport à des clichés, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formes de mutilation sexuelle féminine n'ont aucun rapport en gravité avec ce qu'on appellerait la circoncision sur les garçons. On ne peut pas faire de parallèle.
Ni de comparaison, pas seulement dans leur gravité, mais aussi dans leur forme physique, je veux dire. Hein.
Oui, rien que par exemple la clitoridectomie, donc c'est l'ablation du gland du clitoris, on pourrait dire, voilà, sur la verge, ce serait l'ablation du gland. Mm-hmm. On peut pas comparer ça à la circoncision, quoi. Ça n'a rien à voir du point de vue de la gravité, ni des conséquences, aussi bien du point de vue du plaisir que du point de vue de la douleur,
du sens,
et des conséquences médicales, quoi. Ça n'a rien à voir. Mmh. Et puis aussi, la dernière chose que tu disais, c'est que c'est pas pratiqué uniquement par les femmes.
Oui. Alors ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées par des femmes. C'est strictement faux. En Égypte, ils sont par exemple pratiquées par des barbiers. Hein. C'est-à-dire quand on va chez le coiffeur, ce même coiffeur peut pratiquer aussi les mutilations sexuelles féminines. On l'a vu aussi dans d'autres pays. Les hommes de plus en plus se mettent à pratiquer des mutilations. On le verra peut-être plus tard dans l'émission, mais pour des raisons économiques. Quoi. Voilà, c'est un service, je vais mutiler, c'est un service comme tant d'autres. Quoi.
D'accord, alors on écoute un peu de musique.
Vous avez entendu Aster Aweke, qui est une chanteuse éthiopienne. Donc le morceau, ça s'appelle Ishebelu. On va continuer sur Dégenrer, l'émission, donc sur le thème des mutilations sexuelles féminines.
Et quelles sont les raisons invoquées par rapport pour légitimer ces pratiques ? Pourquoi est-ce qu'on mutile des milliers, des millions de femmes et de fillettes ?
Il y a toujours des raisons qui reviennent, notamment, notamment la tradition. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont inscrites dans les us et les coutumes ancestrales. On a toujours fait ça, donc on va le faire. C'est immuable. Et du coup, on va continuer à pratiquer les mutilations sexuelles féminines. Sans vraiment un sens particulier, mais on va continuer. C'est la tradition qui le veut. Et puis, on a évoqué aussi une autre raison tout à l'heure. C'est le contrôle de la sexualité. D'une part, la garantie de la virginité, et d'autre part, la garantie de la fidélité.
C'est-à-dire que une femme qui va pas avoir subi soit de clitoridectomie, soit d'excision, soit l'infibulation, comme tu disais, on va considérer qu'elle va pas arriver vierge au mariage, ou alors qu'elle va tromper son mari et aller chercher d'autres hommes que son mari.
Oui, on a tendance à voir en fait dans une fille qui n'est pas excisée, une fille facile, une fille qui va chercher les hommes, d'accord. Et je l'ai rencontrée là dans son terrain d'enquête, donc à Djibouti en 2005 quand je suis allée. On traite la fille qui n'est pas excisée de prostituée. Donc ça peut, leur propre peut aller quand même beaucoup plus loin que ça. D'autres raisons aussi, c'est des raisons de pureté. Ça revient souvent, c'est-à-dire on va purifier le sexe de la fille, et par conséquent on va donc le mutiler. On a vu tout à l'heure que la religion pouvait légitimer la mutilation sexuelle féminine, ou en tout cas utilisée pour justifier les mutilations sexuelles féminines. Et puis, on sait aussi que les mutilations sexuelles féminines peuvent s'inscrire dans une espèce de ritualisation ou de rite d'initiation pour passer de l'enfance à l'âge adulte. La fille, par exemple, qu'on va mutiler, est une fille qui va devoir apprendre à appréhender la douleur pour être une future épouse et pour être une future mère qui va subir après les douleurs de l'accouchement. Donc il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte quand il s'agit de raisons invoquées. Et puis il ne faut pas oublier que l'excision reste aussi une garantie de mariage. Et ça, on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que les hommes préféreront se marier avec des filles qui sont mutilées. Hein, et ce qu'on voit aussi, c'est que une fille qui n'a pas été excisée jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, à l'approche d'un mariage, va être excisée parce que justement sa mère ou son entourage familial direct subit des pressions de la part de la famille du futur époux, et cette fille qui a pu éviter jusqu'à maintenant les mutilations va risquer de subir des mutilations sexuelles féminines.
Il y a aussi donc tout un tas de croyances par rapport ça dépend bien sûr des endroits. Moi, j'avais entendu parler que on dit des femmes si elles ne sont pas excisées, le clitoris rendra le mari stérile.
Exactement. Ou
alors que le clitoris va déchirer l'enfant quand il naît, voilà. Des choses comme ça.
Ou va déchirer le pénis de l'homme. Il y a pas mal de croyances de croyances très négatives sur le sexe de la femme, qui est carrément diabolisée au fait, qui est la source de tous les maux, et du coup ça justifierait qu'on le coupe, qu'on l'excise, qu'on le supprime tout simplement. Mais il faut pas oublier, je pense que faut pas il ne faut pas, à mon sens, oublier que derrière tout ça, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, qu'il y a tout simplement la volonté de soumettre, la femme à un contrôle total et dans sa sexualité et dans son expression. Et dans sa liberté à disposer de son corps, etc., et qu'on va mutiler à tout va. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on invoque les raisons traditionnelles, pour moi, c'est du non-sens, parce que de nos jours, eh bien, la tradition qui demandait d'exciser par exemple à 12 ans, parce que c'était pubertaire, on excise à 0 ans, à 1 an, à quelques mois.
Et est-ce qu'il y a aussi des enjeux économiques par rapport à l'excision ou aux mutilations ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. On peut dire que ça rapporte, honnêtement. Hein. Bah déjà quand les personnes, les femmes ou les hommes qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines, ce sont des hommes et des femmes qui vont avoir de l'argent.
Hein.
Voilà, d'une part. Et d'autre part aussi, ça rapporte, parce que vous prenez le cas de l'Égypte, par exemple. Le cas de l'Égypte, les mutilations sexuelles féminines sont interdites en dehors du cadre médical. Mais si elles sont pratiquées médicalement, elles ne sont pas interdites. Et donc, du coup, certains médecins égyptiens profitent de cette aubaine pour médicaliser, c'est-à-dire pratiquer les mutilations sexuelles féminines sous anesthésie, hein, et du coup, ça rapporte énormément.
D'accord. Après la musique, on va démontrer que ces mutilations visent à opprimer, à contrôler les femmes, et on va commencer à parler aussi des luttes contre ces mutilations qui ont lieu.
O mule mamwa mi na titi na pena weli sane mule mamwa mumu bamba adola ke kano sabaka nemba na masenga sese o mule mamwa mi na titi na pena weli sane mule mamwa mumu bamba Adolam ke kano sabanga neba Wetum na miso de bebe na mule mamwa mie Wetum na miso de bebe na mule mamwa mie Adolam ke kano yenamba Wetum na miso de bebe na mule mamwa mie Adolam ke kano yenamba Wetum na miso de bebe na mule mamwa mie Adolam ke kano yenamba Mongo
pamodi medinde na ye kalatalo ba momende topina ba momende ya songo na nyoko e opongo mokombia bisona wa ibale pongo masumbia te lewa mawalande oinangane bisona wa ibale pongo masumbia te lewa mawalande oinangane Mwamodi medinde na ye Kalataloba mwomenende topina Omenendi ya songo na nyongo De opongo mwongombia Mwamodi medinde na ye Kalataloba mwomenende topina Mwamomenendi ya songo na nyongo De opongo mwongombia Reviens, s'il te plaît, mon chéri. Reviens, s'il te plaît, mon chéri. Tu as été trompé. La coma bobé de ma wontiwa. La biwana si c'est l'agnolo. Timba, 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 Angola, soni soni timba, 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 makoma bobe.
C'était Ngué à la route qui chantait la chanson Mary et John. Ngué à la route, c'est une chanteuse camerounaise qui est très engagée dans la lutte pour les droits des femmes au Cameroun.
Ce qu'on a vu, Sabrine, dans les raisons invoquées pour légitimer les mutilations sexuelles féminines et comment ça se pratique, qu'en fait, c'est vraiment un élément qui vise à soumettre la sexualité des femmes, à faire en sorte que la sexualité des femmes soit uniquement dirigée vers le plaisir d'un homme, le mari, et soit à des fins reproductives et pas à des fins de plaisir. Et pour ça, on voit que justement l'excision, les mutilations sexuelles féminines ne sont pas seulement, comme tu disais, des éléments physiques, enfin c'est pas seulement une mutilation physique, mais c'est aussi tout un système social qui participe à l'oppression des femmes.
Oui, je rajouterais aussi que il y a certes les mutilations sexuelles féminines, mais il y a aussi le mariage forcé, et c'est vrai que ces deux éléments sont constitutifs de la mise en pratique du patriarcat. Parce qu'on sait que les mutilations sexuelles féminines, comme tu l'as dit, c'est pas uniquement un sexe qui est mutilé, mais c'est tout un ensemble de droits de ces filles-là qui sont atteints. Et de fait, ce qui est important de rappeler, c'est que ces mutilations sexuelles féminines vont en fait contribuer à maintenir le système patriarcal à l'âge prépubertaire, à un petit âge, mais aussi à l'âge où elle sera épouse, là aussi on va lui demander de se soumettre, et où elle sera mère, parce que là aussi on va lui demander garantir, en tout cas de faire en sorte de faire en sorte que l'éducation des enfants soit effectivement la plus positive possible. Autrement dit, elle sera toujours confinée à ce rôle dans la sphère privée. Donc on voit bien que là, que ce système patriarcal, au fait, via les mutilations sexuelles féminines, il va rester intact, si j'ose dire.
D'accord. Et on voit aussi par rapport aux initiations, justement au rituel d'initiation, que que ces mutilations sexuelles féminines s'inscrivent aussi dans toute une éducation, voire dans des rites qui apprennent et qui inscrivent dans le corps des femmes toute une éducation à la souffrance, au fait d'affronter la souffrance, mais surtout à se soumettre. Mmh. Parce que souvent on dit oui, mais il y a des rites d'initiation féminine et des rites d'initiation masculine.
Oui, pour des rites d'initiation, encore une fois, pour aller de l'enfance à l'âge, pour quitter l'âge d'enfance à l'âge adulte.
Mais quand on voit le contenu des discours pour les rites d'initiation masculine et les rites d'initiation féminine, on voit qu'on ne peut pas faire de parallèle encore, parce que les rites d'initiation masculine servent à exalter le courage des hommes à prendre du pouvoir dans la société, alors que les rites d'initiation féminine sont au contraire des rites de mutilation psychologique et physique, sont des rites justement
qui apprennent à étouffer leur expression,
à supporter la souffrance, et surtout à se dire que être une femme, c'est vivre dans cette souffrance là.
Oui, et puis rappeler aussi que il y a toute la notion de douleur aussi, c'est-à-dire que ces filles-là, tout comme les garçons, on leur demande d'apprendre la douleur. Simplement, les filles vont apprendre la douleur, non pas pour résister, mais comme tu le dis, pour
continuer
à se soumettre, en fait. Donc c'est ça qui est quand même, ça qui est quand même extraordinaire.
Et souvent on dit aussi, un des clichés, c'est mais les femmes, c'est les femmes qui le veulent, c'est les vieilles femmes qui excisent, les mamans, elles pourraient arrêter l'excision. Qu'est-ce que tu répondrais à ce genre de questions ?
Oui, alors c'est vrai que d'un point de vue opérationnel, comme on l'a dit tout à l'heure, en majorité ce sont les femmes qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines. Mais encore une fois, les femmes ne sont, je dirais, que des exécutantes. Parce qu'après tout, elles pratiquent ces mutilations sexuelles féminines à la demande et sous la pression sociale des hommes, sous la pression de toute une communauté, sous la pression de toute une famille, sous la pression de tout un ensemble d'acteurs et d'actrices sociaux. Et que par conséquent, les femmes qui pratiquent ces mutilations sexuelles féminines, en tout cas les mères qui sont censées garantir la pratique de cette mutilation sexuelle féminine, je ne pense pas qu'elles aient un espace de parole ou de décision pour s'opposer aux mutilations sexuelles féminines. Cela étant, certaines arrivent, mais au prix de leur vie.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, on voit par exemple, il y a un film moi qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle Mola Adé, où on voit une femme, une mère qui refuse d'exciser sa fille au Mali, c'est ça, Burkina.
Oui, c'était plutôt le Burkina Faso, Burkina. Mais en tout cas c'est en Afrique de l'Ouest, oui.
Et qui accueille des petites filles qui fuient l'excision, et on voit au début les hommes qui disent mais ça c'est une affaire de femmes. D'abord les femmes essaient, enfin les exciseuses réclament les fillettes, et à partir du moment où la femme résiste, elle prend les coups de son mari, ensuite les coups des hommes de la communauté. En fait, tous les hommes de la communauté s'en mêlent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme refuse de faire une pratique patriarcale, en fait, elle subit une répression. Et quand c'est pas elle qui subit la répression, ça peut être sa fille qui va être considérée comme une prostituée, va être violée, va être immariable, rejetée.
Voilà, une fille qui... Alors, peut-être pas comme une prostituée, mais en tout cas comme une impure. Hein, il y a le mot d'ailleurs dans Mouladé, il y a le mot bilakoro qui revient toujours. Hein, donc bilakoro qui veut dire qui fait lien avec la pureté. D'accord. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a des résistances individuelles. Il y a des femmes, des hommes, des mères et des pères qui résistent, qui s'opposent aux mutilations sexuelles féminines. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils ne le font pas aussi facilement. Ce n'est pas aussi facile. Ils le font au prix de leur vie, au prix d'un rejet, au prix d'une exclusion sociale, d'une exclusion de la communauté, au prix aussi de menaces et de persécutions sur eux. Donc ça, il faut le rappeler quand même.
D'ailleurs, on voit que parmi des gens qui migrent, ça peut être une raison de migration, de fuir un groupe social, Parce qu'il y a des représailles qui peuvent être faites.
Voilà, il y a des représailles qui peuvent être faites. Si elles ne sont pas individuelles, elles peuvent être des représailles collectives. Hein. C'est-à-dire que la famille peut subir ces représailles-là, à minima ou à maxima. Mais il y a effectivement ce cercle vicieux qui s'installe, oui.
D'accord. Et on voit que ces pratiques, elles sont perpétuées dans des sociétés qui sont dominées par les hommes. Et d'ailleurs, moi, l'exemple du village... Tongai, au Kenya, il y a des femmes qui ont fait un village non mixte, mm-hmm. qui s'appelle Tongai. Mm-hmm. Et donc elles discutent, elles font des assemblées de femmes de type démocratie directe. Mm-hmm. Et elles rediscutent de leur tradition. Mm-hmm. Ce sont des femmes Maasai, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et elles rediscutent de leur tradition, justement, pour voir qu'est-ce qu'elles veulent garder et qu'est-ce qu'elles veulent changer. Et dans une interview que j'avais vue, il y a une femme qui dit « Mais de toute façon, les traditions ont toujours été dites, écrites, pensées par les hommes. »
Et pour les hommes.
Et pour les hommes. Mm-hmm. Donc, on va changer des choses. Et parmi les choses qu'elles changent dans ce village, elles ont aboli à l'unanimité complètement mm-hmm. l'excision.
Oui. Enfin, toute forme de mutilation. Hein, oui. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'excision au Kenya. Oui, bien sûr. Mais ça c'est parce que c'est parce qu'on peut, espérer... penser à des réponses au patriarcat. Mais encore une fois, ces villages-là qui se créent, il n'y a pas qu'un seul village au Kenya qui se crée, encore une fois, il ne faut pas oublier quand même que quelquefois, les habitants de ces villages donc non mixtes peuvent subir des représailles et pour certaines peuvent être tuées. On a entendu effectivement dire qu'une des femmes a été tué dans ces villages-là, parce qu'il n'y a pas qu'un seul village. Et du coup, voilà, ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer aux violences faites aux femmes, en particulier à l'excision, au mariage forcé, mais au risque de notre vie quand même. Hein. Mais on peut s'y opposer.
Mais on voit que justement la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, c'est une lutte.
Les luttes.
C'est des luttes contre les patriarcats, en réalité.
Mais tout à fait. Tout à fait. C'est des luttes qui sont contre les patriarcats, c'est-à-dire contre tout un système qui est mis en place de soumission, d'oppression, d'exploitation des femmes. Ce ne sont pas des luttes qui sont qui visent uniquement telle violence ou telle autre violence. Ce sont des luttes qui s'inscrivent véritablement dans une approche globale contre le patriarcat. Et ça, c'est super.
Et peut-être avant de parler justement plus précisément des luttes, que tu connais assez bien, est-ce que tu pourrais nous parler de la journée du 6 février ?
Ah bah oui, ça a été effectivement la raison de notre émission. Alors, le 6 février... de chaque année célèbre la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Cette journée-là est née de l'initiative des femmes militantes africaines qui se sont réunies en 2003, en février 2003, je pense que c'était à Addis Abeba, et qui se sont dit qu'il fallait visibiliser et donner plus de force, plus d'écho, plus d'initiative aux luttes contre les mutilations sexuelles féminines. Et elles ont donc décrété cette journée internationale. Et du coup, chaque 6 février donc est une journée qui donne l'occasion à toutes les militantes dans tous les pays et bien d'évaluer, de faire un état des lieux des luttes précédentes, des initiatives qu'elles ont mises en place, de remettre en cause aussi quelques stratégies, les stratégies qu'elles ont mises en place. Bref, ça donne l'occasion en fait de discuter, de repenser les luttes, de les renforcer, etc.
D'accord, on va écouter un peu de musique avant de parler justement des luttes. Et on va écouter un morceau de Tracy Chapman. Pour rappeler, Tracy Chapman, c'est une lesbienne féministe black américaine qui a aussi beaucoup lutté pour les droits des femmes et
les droits de la communauté noire, dont Tracy Chapman.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds just poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Talking about a revolution.
Extrait du film Mola Adé. Ce sont des femmes qui sont en train de manifester et de se rebeller pour demander l'abolition de l'excision.
Les luttes contre les mutilations sexuelles féminines ont débuté quand même depuis les années 70, on peut dire, hein, en particulier en Afrique, d'accord. Elles se sont plus renforcées dans les années 80, et j'en veux pour preuve la création du comité interafricain de lutte contre toute pratique néfaste, toute pratique traditionnelle néfaste pour l'enfant et la femme. Et la mère, hein. Et on a un petit peu partout des initiatives aussi bien individuelles que collectives qui sont quand même très 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 originales dans ce domaine-là. Est-ce que tu veux que je te donne des exemples?
Oui, des exemples à la fois peut-être locaux, ouais. Et à la fois des exemples internationaux.
Alors des exemples internationaux, je pense qu'il faudrait Bah déjà, il y a cette journée internationale. Moi, je trouve que ça, c'est historique. Il y a, sur le plan juridique, le protocole de Maputo, qui est le protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, et qui, lui, stipule bien, d'un point de vue juridique, que les mutilations sexuelles féminines, quelle que soit leur forme, est interdite.
Et oui, puis... ça, par exemple, tu m'avais dit que justement, il y avait des juristes, des femmes juristes africaines, qui avaient déjà lutté pour qu'au sein du protocole soit inscrite comme interdite toute forme d'atteinte aux femmes.
Tout à fait, le protocole de Maputo, le protocole relatif en tout cas aux droits des femmes, de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, est le fruit, dans son évolution, est le fruit de luttes qui ont été menées par des juristes femmes dans les années 90, des juristes femmes africaines, 90 plutôt à partir de 95, et qui ont donc fait en sorte qu'il y ait une réelle existence reconnue régionalement, c'est-à-dire par tous les États, plus de 50 États africains, par tous les États, de la participation sur le plan politique, économique et social des femmes. Et que, de fait, toutes les pratiques traditionnelles telles que, par exemple, les mutilations sexuelles féminines, sont à bannir. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce protocole, donc, est entré en vigueur, ça a été une des grandes avancées, des grandes victoires, est entré en vigueur donc, en novembre 2005, et depuis, chaque État, africain se doit d'adapter sa législation nationale au vu de cette législation régionale pour une meilleure égalité de droits entre les hommes et les femmes.
Et par rapport à l'excision, qu'est-ce qui est inscrit donc dans ce texte législatif ?
Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il s'agit de l'article 5 ou de l'article 6 qui stipule très bien que toute mutilation sexuelle féminine, quelle que soit sa justification traditionnelle, culturelle ou religieuse, est à abolir. Autrement dit, les mutilations sexuelles féminines, quelle que soit leur forme, sont illégales en Afrique.
D'accord, c'est une bonne avancée. Et toi, tu as c'est suivi historique. Un peu comment ça a été pris, adapté ou ratifié.
Alors,
Djibouti.
Voilà, on parle de ratification. C'est-à-dire que quand j'étais en 2005 à Djibouti, donc j'étais en mission là-bas, et c'était pendant 2 jours donc la ratification de ce protocole par Djibouti.
Oui, parce que pour qu'il soit mis en application,
il faut que 15 États le ratifient.
Donc voilà. Djibouti a fait partie des 15 États qui l'ont ratifié.
Djibouti a fait partie des 15 États qui l'ont ratifié. Et donc il y avait à cette occasion, bien sûr, toute une réunion internationale à laquelle j'ai participé en tant qu'observatrice internationale. Et là, c'était très émouvant parce que... D'une part, il fallait aboutir à l'issue de ces 2 journées à la ratification donc concrète du protocole de Maputo, mais il fallait aussi aboutir à l'abolition totale des mutilations sexuelles féminines. Et je me rappelle, ça c'était émouvant, je me rappelle que la ratification avait eu lieu, mais que dit qu'il fallait, bon, les leaders religieux se sont réunis et ils ont dit pas d'infibulation, mais on va garder quand même une petite excision. Ce pourquoi toutes les femmes qui étaient présentes dans la salle, il y avait je pense 400 femmes djiboutiennes, etc., eh bien on est monté sur les tables, sur les chaises, et on a crié parce qu'on pensait qu'il y avait là une trahison. Nous on demandait une abolition totale, et puis eux ils nous vendaient quelque chose comme les leaders religieux, qui étaient bien sûr au demeurant tous des hommes, voulaient quand même garder un petit peu. Eh bien on a crié en disant non, c'est soit l'abolition, soit vous gardez toute l'excision, etc. Et puis résultat, eh bien face à cette révolution, à cette révolte des femmes, eh bien Djibouti a aboli complètement les mutilations sexuelles féminines et sur le plan religieux, en disant que les mutilations sexuelles féminines, quelle que soit leur forme, eh bien n'a aucune justification religieuse ou aucune légitimité religieuse. C'était démentiel, c'était beau à voir, toute la solidarité et la révolte des femmes à gagner. Alors il y a, après il y a d'autres initiatives aussi qui sont importantes quand même à rappeler. Par exemple au Kenya, on a mis en place, les femmes au Kenya ont mis en place des centres de refuge. Et ces centres de refuge, eh bien, accueillent des filles, hein, ou des fillettes qui fuient l'excision. Et ces centres de refuge, eh bien, non seulement vont accueillir ces filles-là, elles vont les protéger contre leur communauté, contre leurs parents qui demandent l'excision, et vont garantir leur éducation, leur alphabétisation, jusqu'à un âge où elles peuvent se prendre en charge. D'autres initiatives tout autant intéressantes et très impactantes aussi, ce sont les cérémonies d'abandon du couteau. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, ça existe en Afrique de plus en plus, ça c'est dans les années 90 et de plus en plus maintenant. Eh bien, il s'agit de déclarations publiques qu'une communauté ou qu'un village prend pour abandonner totalement les mutilations sexuelles féminines. Et lors d'une journée, bah, il y a toutes les femmes qui viennent et qui déposent au fait les couteaux pour dire symboliquement, pour montrer symboliquement, publiquement, à la face de tout le monde, que ce village ne pratiquera plus les mutilations sexuelles féminines. Et puis moi, je voudrais bien aussi, puisqu'on a dédicacé on a dédié en tout cas cette émission aux activistes féministes, et bien parler aussi de petites initiatives comme par exemple, et néanmoins très grandes, et bien ce sont des femmes qui avec leurs petits moyens vont se promener de village en village avec un mannequin qui va donc un mannequin qui représente la vulve. Donc le sexe féminin qui va le démonter comme ça au logo et puis qui va aller de village en village montrer aux femmes, sensibiliser les femmes et les fillettes sur les mutilations sexuelles féminines.
Oui, parce qu'il peut, c'est très difficile qu'il y ait une révolte ou une contestation s'il y a une ignorance par rapport à qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences.
Ah mais tout à fait. Si on ne fait que interdire comme ça les mutilations sexuelles féminines sans dire, sans expliquer pourquoi elles sont néfastes pour la santé des filles et des femmes, pourquoi elles affectent d'autres droits, bien évidemment on va pas comprendre. Donc il y a une approche comme ça progressive vers une abolition totale. Il y a aussi d'autres initiatives, comme par exemple la participation des imams, quand on sait que l'imamat c'est uniquement réservé aux hommes, eh bien on peut dire que les imams qui participent dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines acquièrent à leur cause d'autres hommes, et que comme ça les hommes et les femmes s'allient pour lutter pour dire non aux mutilations sexuelles féminines.
Oui, par exemple il y a des imams qui font partie de pays donc musulmans mais qui ne pratiquent pas les mutilations sexuelles féminines, qui vont témoigner de ça,
dénoncer, témoigner et puis agir très activement. C'est le cas par exemple de l'ANIOS, qui est donc l'association nationale des imams sénégalais. Mais c'est aussi le cas, tu vois, des griottes et des griots. Quand on sait que les griottes et les griots sont des super chroniqueurs, c'est-à-dire des personnes qui savent parler, qui font et qui défendent les faits sociaux, qui rapportent en fait les news, si j'ose dire, dans les villages, et ben, quand on sait que eux et elles, qui savent parler à leur public, s'emparent des mutilations sexuelles féminines pour les dénoncer, et bien ça aussi c'est un apport conséquent de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines.
Oui, et on peut peut-être parler aussi de médicalement, peut-être de quelques avancées.
Oui, il y a ce qu'on appelle la réparation du clitoris. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ce qui consiste au fait, c'est la réparation du clitoris. Donc c'est une procédure, une opération qui a été mise en place par un médecin français, et qui consiste au fait, qui consiste à tirer Elle dure 45 minutes, hein, sous anesthésie, je pense, générale ou locale, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, qui consiste à tirer le clitoris, parce qu'on sait que le clitoris est long de 10 cm, et donc à l'endroit où il y a eu l'ablation, donc, hein, l'excision, eh bien, il va tirer de sorte à ce qu'il...
Oui, il réaffleure, quoi. Il recréerait une tête du clitoris,
tête de clitoris. Et ce qui est important par contre de dire, c'est que en France, la réparation du clitoris est entièrement prise en charge par la sécurité sociale, ce depuis 2004. Donc ça, c'est très bien quand même. Hein,
Et ça, c'est une victoire. On parlera tout à l'heure des associations qui luttent contre ça en France, mais c'est une des victoires de ces associations.
C'est le fait effectivement que ça soit pris en charge entièrement par la sécurité sociale, oui, ça c'est une victoire, bien évidemment.
Et aussi par rapport à des avancées médicales, il y a la défibrillation.
Oui, la défibrillation ou la désinfibrillation, c'est-à-dire qu'une femme qui a subi une infibrillation, c'est le type 3, eh bien c'est va subir une réouverture de son vagin qui va lui permettre une pénétration un petit peu plus normale.
Oui, parce que la fibrillation aussi rend la pénétration donc
impossible.
C'est possible, mais avec déchirement. Enfin, je veux dire, quand la femme est mariée, la pénétration est possible, mais ça c'est extrêmement douloureux.
C'est pas
par le mari.
Enfin, c'est pas qu'elle est extrêmement douloureuse. Elle est, pour moi, elle est impossible. Tu sais comment par le passé les hommes pénétraient les femmes qui étaient infibulées. Eh bien, ils pratiquent des coïts forcés.
Oui,
un viol qui pouvait durer 3 nuits.
Ouais, c'est extrême.
Autrement dit, excuse-moi l'expression, mais il bousillait le vagin. Donc pour moi, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire, mais au risque de voilà. Mais et donc cette défibrillation permet cette réouverture, et ça existe déjà depuis les années 90, je pense, plus, en tout cas elle s'est plus renforcée dans les années 90, et autant te dire que c'est un vrai pour le coup soulagement, quoi.
Oui, et ça permet aussi des accouchements faciles.
Ça permet des accouchements en tout cas plus pratiques, plus faciles, oui.
D'accord. Donc on peut pas citer ce soir toutes les initiatives et toutes les luttes.
C'est vrai qu'elles sont nombreuses.
Qui ont été faites, mais quand même peut-être ce qu'il y a à retenir, c'est que elles existent depuis plus de 30 ans, parce que c'est vrai qu'en Occident on entend peu parler. Mm-hmm. On entend parler parfois des ONG blanches, qui parlent de ces mutilations, mais il faut savoir que ça a commencé et c'est tenu par des femmes qui sont les premières concernées depuis bientôt 40 ans, quoi.
Oui, enfin plus 30 ans, bien sûr, ce sont des luttes qui existent depuis longtemps, mais il faudra aussi rappeler que ces luttes-là font aujourd'hui que l'excision n'est plus un tabou. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un sujet de plus en plus médiatisé. Les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, des hommes s'impliquent de plus en plus. Et on peut parler quand même de recul des mutilations sexuelles féminines, surtout en Afrique.
D'accord. On va écouter un morceau de musique et ensuite, on va parler de comment ça se passe en France aujourd'hui.
Bien sûr.
Yeah. dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
Alors, c'était Maria Makeba, une chanteuse sud-africaine qui a lutté contre l'apartheid.
En France, tu me disais qu'on évalue à 50 000 le nombre de femmes qui ont subi des mutilations sexuelles féminines. Où est-ce qu'on en est en France du point de vue des luttes? Est-ce qu'il y a des associations qui luttent? Depuis quand? Quelles ont été leurs actions et leur impact?
La lutte contre les mutilations sexuelles féminines en France a débuté plutôt dans les années 80, notamment avec la création du GAMS, groupement des femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, et puis vers 82. Donc le GAMS qui a été créé par des binômes de militantes féministes et féministes françaises, et africaine, d'accord. Et puis en 82, il y a eu la création de la commission pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui est une commission qui agit plus sur le plan juridique, qui a été donc fondée en 82 par Awa Thiam, une africaine sénégalaise. Ces deux associations, aussi bien dans leur domaine de compétences, ont fait évoluer d'une part la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation et d'information sur les mutilations sexuelles féminines, et d'autre part, ont fait évoluer aussi la jurisprudence, en tout cas le traitement juridique des mutilations sexuelles féminines. Je rappelle cependant que en France, il n'y a pas une législation spécifique hein, contre les mutilations sexuelles féminines, mais elle est néanmoins très, très ferme.
Oui, avant ces luttes, justement, comment étaient traités les cas de mutilation sexuelle féminine en France?
C'est pas avant les luttes. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu une évolution jurisprudentielle, une évolution du traitement juridique dans les affaires de mutilation sexuelle féminine. D'accord? Jusque dans les années 80-90, les procès n'était pas sanctionné de manière très, très ferme. Il a fallu attendre le procès de 99, ce qu'on a appelé le procès Awa Griou, pour voir une sanction très ferme. Je pense qu'elle a écopé, Awa Griou étant l'exciseuse, elle a écopé de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement. Et ce, grâce à une fille africaine qui elle-même a dénoncé et porté plainte.
C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des magistrats aussi bien que des ethnopsychiatres ou des ethnologues qui, ou alors des représentants de communautés qui disaient « mais l'excision, ça fait partie de notre culture ».
Ouais, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre tradition. Bref, okay. le discours normatif classique. Et de fait, ça faisait le jeu de ces magistrats, qui étaient des magistrats français, et donc anciennement, dans le pays, dans la France, étaient colonisateurs. Et donc il y avait un petit peu ce deal, en tout cas, derrière.
Et on voit bien que le relativisme culturel est toujours assez fort quand il s'agit de violences faites aux femmes.
Enfin, comme par hasard.
Oui, comme par hasard.
Comme par hasard, bien évidemment. Tous les hommes, en tout cas, ont retrouvé leur compte. Ouais. Alors, peut-être dire un mot sur quand même cette législation et préciser que les mutilations sexuelles féminines relèvent quand même de la cour d'assises. Autrement dit, c'est un crime.
Ouais.
D'accord ? Il y a donc plusieurs articles du code pénal, je dis bien du code pénal qui sanctionne, ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, hein. Mais, quand je parlais tout à l'heure d'évolution jurisprudentielle, on sait qu'aujourd'hui, au même titre que l'inceste, eh bien, il y a un allongement de la loi de prescription en matière d'action publique. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 20 ans à compter de la majorité. Et ça, je pense que c'est tout nouveau, c'est très bien. C'est-à-dire que jusqu'à 20 ans après la majorité, une fille peut porter plainte. Une fille qui a subi en tout cas des mutilations sexuelles féminines peut porter plainte. La répression contre les mutilations sexuelles féminines, c'est aussi renforcé quand celle-ci se faisait à l'étranger. Hein? Mmh. Et ça c'est très bien parce que très souvent, je sais pas si tu le sais, mais les mutilations sexuelles féminines, les filles ont tendance quand elles ne se pratiquent pas en France, ce qui est le cas depuis les années 90, elles se pratiquent pendant les périodes de vacances
ouais.
Dans les pays d'origine des parents. Et bien là aussi, la sanction est très la sanction est très ferme. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi à relever pour, et ça, si des acteurs sociaux, médicaux, paramédicaux nous écoutent, c'est que le secret professionnel est levé tel qu'il est prévu dans l'article 226.13 et dans l'article 226.14. Hein. C'est-à-dire que on peut effectivement, le médecin ou l'infirmière ou l'assistante sociale peut porter plainte, peut en tout cas dénoncer s'il y a constat de mutilation sexuelle féminine.
Du point de vue du droit d'asile, ça a évolué aussi ?
Oui, ça a évolué. Hein. On constate aujourd'hui que les craintes, les motifs de crainte relevant d'une menace d'excision en cas de retour dans les pays d'origine, eh bien, constitue un motif valable, un motif qui est pris d'une manière très sérieuse par les autorités françaises pour donner le droit d'asile. Il n'est pas systématique, mais il est de plus en plus pris en compte, et ça c'est très bien.
Peut-être pour conclure cette émission, on pourrait donner les coordonnées des associations françaises qui luttent contre ça.
D'accord. Alors, donc, on avait dit qu'il y avait la CAMS, la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui est basée à Paris. Le numéro de téléphone est le 01 45 49 04 00. Quant au site, c'est le www.cams.org.
Et la seconde, c'est le GAMS,
voilà,
ça ?
Voilà, le GAMS, donc Groupe de Femmes pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, qui est aussi basé à Paris. Le numéro de téléphone est le 01 43 48 10 87. et le site est GAMS, GAMS.wanadu.fr.
Et donc ça, c'est plus des informations globales sur oui. les mutilations.
Voilà.
Et est-ce que des gens, par exemple, qui sont des acteurs sociaux pourraient trouver des informations sur ce site?
Bien sûr, mais il n'y a pas que ces deux associations-là. Disons que ces deux associations-là sont spécialistes de cette question. Mais il faut rappeler que les mouvements de planning familiales sont sensibilisés à cette question-là, connaissent cette question-là, hein, et du coup peuvent offrir dans n'importe quelle ville peuvent offrir des informations, des infos pratiques. Ça, il ne faut pas les négliger, d'accord. Dans les mairies aussi, on peut aller les chercher.
Voilà, et ben c'est la fin de notre émission. Merci à Sabrine pour l'interview. Merci aussi à Cathy pour le poème et les musiques qui viennent du Cameroun. Merci Swazik et Sam pour la technique ce soir à Dégenré. Avant de se quitter, on va vous donner aussi quelques références de livres et de films concernant les mutilations sexuelles féminines. Alors, un de nos préférés, c'est La parole aux négresses de Hawa Thiam, qui a été édité chez De Noël en 1978. C'est un livre pionnier qui dénonce les mutilations sexuelles féminines. Hawa Thiam, c'est une africaine sénégalaise et elle a été vraiment parmi les premières à casser le tabou et à dénoncer ces pratiques, quoi.
Alors, il y a aussi La face cachée d'Ève de Nawal Sadawi. Qui est paru à l'édition des femmes en 1982, et c'est un livre qui a valu la prison à son auteur, qui est égyptienne, pour avoir dénoncé la condition des femmes, mais surtout l'excision.
Et un autre, c'est Kesso Princesse Peul de Kesso Barry aux éditions Séguère en 88, donc c'est une femme guinéenne qui l'a écrit.
On a aussi Rebelle de Fatou Keïta, qui est une écrivaine ivoirienne, qui a été publiée en 1998.
Fleur du désert de Waris Dirié aux éditions Albin Michel en 98, c'est une femme somalienne.
Et encore une femme somalienne avec L'arme de sable de Noura Abdi aux éditions Archipel, publiée en 2004.
Et enfin en 2005, il y a eu deux éditions, Insoumise de Ayan Hirsi Ali et Mutilée de Kadi Koïta. Donc du Sénégal, voilà pour les deux dernières publications par rapport à la question des mutilations sexuelles féminines. Et enfin, un film qui est facilement trouvable, c'est Mola Adé de Sembene Ousmane. Et la musique que vous avez entendue au début de l'émission, c'est un titre original de Lala Djabo qui s'appelle Jaatou. On va vous quitter en vous faisant écouter Ange Bania. Ange Bania, c'est une femme camerounaise qui lutte aussi pour le droit des femmes et qui a le courage dans ses chansons de parler des violences faites aux femmes, de l'exploitation, des violences conjugales, ce genre de choses qui n'est pas très vendeur. Et donc on va écouter ça et si on a le temps après, on se mettra à Sushila Raman, Woman, pour terminer en douceur l'émission. Eh bien, vous pouvez réécouter lundi soir et autrement, à dans 15 jours. Jesse Male, Jesse Male, Amuto Wae, Amuto.
never destroys you. He doesn't know your worth.